VOA Afrique, les infos. À Washington, Bagassi Koura.
Bonsoir à tous. Dans quelques minutes, le dialogue des religions avec Idrissa Seydoudia. Mais tout de suite, faisons le tour de l'actualité. Un soldat a été tué ce mercredi à Bujumbura par un tir de policiers qui tentait de disperser des manifestants opposés au troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. C'est ce que rapporte l'AFP, citant des témoins et un soldat, Jacques Aristide.
Les affrontements et les embuscades restent réguliers sur le terrain. C'est la ville de Menaka à 317 km de Gao au sud-est qui est au centre des préoccupations. En violation du cessez-le-feu censé être en vigueur en fin avril, les groupes armés de la plateforme proche de Bamako ont chassé le MNLA de la ville de Menaka qu'ils occupaient depuis mai 2014. Le Gatia et ses alliés refusent toujours de quitter la ville. Selon son secrétaire général Fad Ag Mahmoud, s'ils doivent quitter la ville de Menaka, il faut que ça soit conformément à l'application de l'accord du 15 mai et dans le sens du retour progressif des forces de sécurité du Mali. Plus au nord, dans la région de Kidal, les manifestations qui se tiennent depuis quelques jours affectent la fourniture du carburant pour les générateurs. Conséquence, les populations sont privées au jour d'aujourd'hui d'électricité. La mission onusienne souligne qu'elle concentre ses efforts en coopération étroite avec la médiation internationale et en tant que partenaire impartial de tous les Maliens pour faire avancer le processus de paix et pour protéger la population civile contre toute menace et répercussion directe ou indirecte résultant de la poursuite de la violence et des tensions. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Voilà, c'était plutôt un reportage de notre correspondant à Gao, dans le nord du Mali. Au Mali où donc deux chefs djihadistes ont été tués. D'après le ministère français de la Défense, il s'agirait de Adama Ag Amas, alias Abdelkrim le Touareg, et Ibrahim Ag Inawalen, alias Bana. On revient donc sur l'actualité au Burundi, où un soldat a été tué par des tirs de policiers qui tentaient de disperser les manifestants. Jacques Aristide.
D'abord, le report des élections n'est pas une affaire d'un candidat. Monsieur Nkurunziza, c'est un candidat. Il n'a pas à fixer les dates des élections auxquelles il est concurrent parmi tous les autres concurrents. Le calendrier électoral, en réalité, c'est une affaire de la Commission nationale indépendante chargée des élections. Donc, nous pensons que M. Nkurunziza est en train de jouer un rôle qui n'est pas le sien. Ensuite, il dit que les élections sont reportées pour le 5 juin. Est-ce que d'ici le 5 juin, M. Nkurunziza peut nous assurer qu'il aura renoncé à son troisième mandat? Parce que la crise politique qui secoue au Burundi aujourd'hui est liée à son entêtement par rapport au troisième mandat. Est-ce que d'ici le 5 juin, il aura désarmé la milice Imbonerakure de son parti politique? Et cela est effectivement en violation de la loi, parce que la loi interdit à tout parti politique d'installer des milices. Est-ce que d'ici le 5, M. Nkurunziza peut nous rassurer qu'il aura ouvert toutes les radios privées qui sont fermées, seront réouvertes et qu'elles seront fonctionnelles pour qu'elles puissent jouer le rôle dans la campagne électorale? Parce qu'aujourd'hui, M. Nkurunziza est en train de faire la campagne tout seul avec un seul médium, le médium d'un seul candidat. Cela n'est pas acceptable. On ne peut pas faire une campagne électorale avec un seul candidat qui dispose d'un médium.
Voilà, toutes nos excuses. Hein. C'était Bonaventure Ngasutoa, un opposant de la République de Burundi, qui revenait donc sur la décision du président Pierre Nkurunziza de reporter au 5 juin les élections législatives et municipales qui étaient prévues pour le 26 mai. Le président burundais a aussi prolongé la campagne électorale jusqu'au 2 juin. Et revenons en Afrique de l'Ouest, hein, toujours au Mali. La mission de l'ONU là-bas a été de nouveau la cible d'une attaque. Un gardien d'une résidence de la MINUSMA à Bamako a été blessé par balle ce matin. L'assaillant a tenté de mettre le feu à un véhicule de la mission onusienne, un véhicule qui était garé devant la résidence de plusieurs personnels militaires. Il aurait ensuite tiré sur le gardien avant de prendre la fuite d'après la MINUSMA. Et c'est dans ce contexte que les consultations autour de l'accord de paix au Mali sont prévues dès lundi à Alger. C'est ce que rapporte la médiation internationale dans un communiqué reçu par l'AFP. Au Niger, le journaliste Moussa Tchangari a été arrêté lundi pour collaboration avec les islamistes. Responsable de l'ONG Alternative Espace Citoyen, il est très critique sur la situation humanitaire dans le sud-est du Niger, où l'armée nigérienne combat Boko Haram. On lui reproche notamment de faire passer les forces nigériennes pour criminels et non les djihadistes. Lutte contre Boko Haram toujours, l'Assemblée nationale tchadienne a voté en faveur d'une prolongation de l'intervention militaire contre les insurgés islamistes nigériens, résolution votée par une large majorité des députés tchadiens. « J'ai été déçu », ce sont les mots du chef de l'opposition Seloud Alain Diallo à l'issue de sa rencontre aujourd'hui avec le président guinéen Alpha Condé. Depuis plusieurs semaines, l'opposition réclame un report de l'élection présidentielle prévue en octobre prochain, ce que refuse catégoriquement le pouvoir. On écoute Chaloua Diafari.
Cela fait des semaines que la communauté internationale appelle à ce retour au dialogue. Un dialogue de sourds, à en croire les premières réactions de l'opposition. C'est moi seul qui ai parlé, j'ai été déçu qu'on n'ait pas d'échange, je m'attendais à mieux que ça, a déclaré le chef de l'opposition Seloud Alain Diallo à sa sortie. Alpha Condé m'a dit « Je suis là pour t'écouter, je vais confronter tes propositions et observations à celles de la mouvance et moi en tant que président de la République au-dessus de la mêlée, je prendrai une décision ». Au cœur de la discorde, la tenue des élections. Le président Condé insiste sur la tenue des élections présidentielles en octobre, avant la tenue des élections locales. L'opposition, de son côté, dénonce ce qu'elle décrit de ruse. Elle réclame la tenue des communales prévues en mars 2016, avant l'élection présidentielle, par crainte que le personnel communal nommé par le pouvoir n'influence le scrutin en faveur du régime en place. À travers la capitale Conakry, les partisans de Condé vendent déjà la victoire de leur leader. Un triomphalisme qui anime les esprits et provoque la colère de l'opposition, surtout que les dernières élections régionales ont eu lieu il y a une décennie. Une colère qui risque de monter d'un cran, l'opposition est déterminée à envoyer ses partisans dans les rues à travers le pays. Maintenant que le virus Ebola a fait moins de ravages, le militantisme a repris de la vigueur.
Chaloua Diafari. Au Bénin, l'opposant Adrien Mbédié a été élu à la tête de l'Assemblée nationale avec 42 voix sur les 83 que compte le Parlement. Par ailleurs, la Cour constitutionnelle a annoncé hier le report au 28 juin des élections municipales qui étaient prévues pour la fin de ce mois.
VOA Afrique en direct de Washington.
L'actualité dans le reste du monde, l'Indonésie et la Malaisie ont décidé maintenant d'accorder un refuge provisoire aux milliers de migrants et victimes de trafic humain à bord de bateaux en perdition. Des précisions sur cette volte-face avec Timothée Donangmaï.
Cette percée a été annoncée aujourd'hui à la suite d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de la Malaisie, de l'Indonésie et de la Thaïlande qui étaient réticents à porter assistance aux migrants. La Thaïlande ne s'est pas associée à la proposition, son ministre des Affaires étrangères expliquant qu'il devait au préalable en référer à son gouvernement. Mais Jakarta et Kuala Lumpur se sont engagés à ne plus refouler les bateaux de ces migrants qui fuient la misère et les persécutions au moment où des centaines d'entre eux étaient à nouveau secourus par des pêcheurs indonésiens. Les trois pays avaient accueilli environ 3000 naufragés en quelques jours, mais ils ont aussi refoulé plusieurs bateaux, s'attirant les foudres des Nations Unies et d'organisations non gouvernementales. Les bateaux transportent des Bangladais qui veulent échapper à la pauvreté, ainsi que des membres de l'ethnie Rohingya, communauté musulmane persécutée et marginalisée, vivant pour l'essentiel en Birmanie, un pays largement bouddhiste qui a également paru assouplir sa position dans cette crise.
Voilà, et pour terminer, le nucléaire iranien, les inspecteurs internationaux n'auront pas accès aux installations scientifiques et militaires de l'Iran. Déclaration ce mercredi du guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei. Il a également souligné que l'Iran ne cédera pas à des demandes excessives. C'est tout donc pour ce bulletin d'information. Dans quelques secondes, le dialogue des religions, c'est avec Idrissa Seydoudia. Aujourd'hui, le thème porte sur la canonisation cette semaine par le Vatican de deux religieuses de Palestine.